Salut, c'est Vincenzo Genovese, journaliste à Bruxelles, où je suis les affaires européennes.
Et moi, c'est Hermine Dancel, également journaliste à Bruxelles.
Aujourd'hui, je vous parle de l'espace Schengen, qui ne va pas très bien. L'espace Schengen est de facto mort. Voici ce qu'a déclaré récemment le président du Conseil national autrichien, Wolfgang Sobotka. Ses propos décrivent sans faux fuyant la situation dans laquelle se trouve l'une des réalisations les plus remarquables de l'Union européenne, la liberté de circulation entre ses États membres. L'espace Schengen garantit à plus de 400 millions de personnes dans 27 pays la liberté de voyager sans contrôle frontalier, soit 23 États membres de l'UE, plus 4 pays, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, qui sont membres de l'AELE, l'Association européenne de libre-échange. Certaines exceptions à cette libre circulation sont prévues, permettant aux gouvernements nationaux de réintroduire pour une durée maximale de 6 mois des contrôles à leurs frontières en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, selon l'accord de Schengen. Cette mesure ne doit être prise qu'en dernier ressort et dans des situations exceptionnelles, dit aussi l'accord.
Il semble toutefois que cette situation s'applique aujourd'hui à de nombreux membres. Fin octobre, un tiers des États Schengen avaient des contrôles passeports à certaines frontières. Allemagne, Autriche, Danemark, France, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie, invoquant autant de justifications diverses et variées. L'Italie, par exemple, à la suite de 2 attaques terroristes en France et en Belgique, a récemment introduit des contrôles aux frontières avec la Slovénie. Cette mesure répondait aux préoccupations du gouvernement italien concernant des terroristes qui, estimait-il, pourraient se cacher parmi les migrants traversant irrégulièrement sa frontière nord-est. 16 000 en 2023, comme l'a expliqué le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dans une information partagée par nos collègues de la Radio 24.
Il s'agit d'une suspension limitée dans le temps, également mise en œuvre par de nombreux autres pays de l'Union européenne, pour empêcher les terroristes de se déplacer en toute tranquillité en Europe. Nous avons fermé Schengen uniquement à la frontière entre l'Italie et la Slovénie, précisément pour empêcher les terroristes d'arriver par la route des Balkans, où se déroule également un intense trafic d'armes, car ces terroristes pourraient frapper dans notre pays ou dans le reste de l'Europe.
Cependant, la justification officielle donnée par Rome à la Commission européenne invoquait un éventail de motifs, tels la menace accrue des violences au sein de l'UE à la suite de l'attaque contre Israël, les risques d'infiltration terroriste, la pression migratoire constante par mer et par terre, l'augmentation des flux migratoires en Méditerranée centrale. D'autres États membres citent d'autres motifs encore pour justifier la pertinence des contrôles aux frontières. Pour n'en citer que quelques-unes, la Norvège évoque des menaces pour les infrastructures critiques à terre et en mer, pour justifier ses patrouilles d'agents sur les ferries qui accostent dans ses ports en provenance d'autres pays membres de l'espace Schengen. L'Autriche mentionne une forte pression migratoire pour introduire des contrôles à sa frontière tchèque. La Suède évoque la menace terroriste islamiste, tandis que l'Allemagne et le Danemark citent l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Mais ce sont les préoccupations sécuritaires liées aux flux migratoires illégaux qui dominent la liste des justifications. En effet, les mouvements secondaires de migrants sont encore très fréquents dans l'UE, malgré les règles migratoires européennes actuellement en vigueur. Ainsi, de nombreux demandeurs d'asile enfreignent leur obligation de rester dans le pays de première arrivée où ils sont enregistrés et où leur demande d'asile est examinée. Le rapport stable entre les décisions et les demandes suggère qu'en 2022, un nombre accru de demandeurs d'asile se sont déplacés du premier pays d'arrivée vers un autre pour y déposer une nouvelle demande, peut-on lire dans le dernier rapport de l'UE sur l'asile et la migration, sans toutefois ne fournir aucune donnée concrète à ce sujet. Preuve en est le cas d'un pays comme l'Autriche, qui n'a pas de frontières avec des pays non membres de l'UE. S'il a accueilli 106 380 primo-demandeurs d'asile l'année dernière, c'est qu'en effet quelque chose ne tourne pas rond.
La preuve est le cas d'Abdesalem la Suède, le Tunisien qui a tué deux citoyens suédois à Bruxelles le 16 octobre. Arrivé en Italie, il est parvenu à se rendre dans d'autres pays, dont la Norvège et la Suède, avant d'arriver en Belgique. Il a même été renvoyé dans les pays où il était arrivé en premier lieu. Gunnar Strömmer, ministre suédois de la Justice, a dénoncé les faiblesses de la politique migratoire européenne juste avant de se réunir avec ses collègues de l'UE à Luxembourg le 19 octobre.
L'homme qui a commis les crimes terroristes en Belgique a été expulsé de Suède en 2010 dans le cadre d'une procédure Dublin. Depuis, il a pu se présenter dans différents pays de l'Union. Cela souligne également l'importance du système de Dublin, du contrôle des frontières, d'un système de retour efficace et de l'échange d'informations entre nos pays membres.
Monsieur Strömmer fait ici référence au règlement de Dublin, qui définit le cadre des règles en matière d'asile et d'immigration dans l'UE. Son application présente d'énormes lacunes, qui sont à l'origine des préoccupations des États membres quant au maintien du système Schengen. Et c'est en renforçant les contrôles aux frontières et en réduisant les possibilités des mouvements secondaires que les chancelleries européennes réagissent. Au-delà des difficultés actuelles, les exceptions au fonctionnement régulier de Schengen deviennent une tendance, avec 390 demandes de suspension depuis 2006. Sylvie Guillaume, députée socialiste française au Parlement européen, donne ici un exemple, expliquant comment l'exception devient la norme. Elle est interviewée par mon collègue Romain Losty de Radio.
En France, en 2015, pour des motifs de terrorisme, mais il n'est pas ma nature de contester ce motif-là, il était tout à fait existant à cette époque, la France décide de rétablir les contrôles aux frontières intérieures avec un certain nombre de pays. Alors là, qu'elle choisit, effectivement, et à des lieux de passage. Et normalement, elle aurait dû, vis-à-vis de cette menace, avoir des contrôles qui durent 6 mois. En 2022, ces contrôles existaient toujours. 7 ans.
La vulnérabilité de l'espace Schengen aux aléas de la politique migratoire européenne et les entraves régulières posées par les États membres à son bon fonctionnement ont rendu la réforme de cet espace de plus en plus nécessaire, ajoute l'eurodéputé.
On rétablit des contrôles aux frontières intérieures. Et donc, on fait complètement dysfonctionner l'espace Schengen, qui repose en gros, pour faire très très vite, sur un principe que, à partir du moment où les frontières extérieures sont correctement gardées, eh bien, il y a une libre circulation à l'intérieur. Donc, comme la Commission européenne n'a pas vraiment réagi à cette anarchie et à cette décision un peu chaotique, il a semblé important, justement, qu'on revoie ce code frontière Schengen. Je dois à la vérité qu'il y avait eu une précédente tentative au cours du mandat précédent, mais qui n'avait pas abouti.
En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition visant à modifier les codes frontières Schengen, les règlements établis en 2016 qui fixent les règles régissant les contrôles aux frontières intérieures et extérieures de l'UE.
Cette réforme, qui est étroitement liée aux questions migratoires, apporterait des modifications aux règles actuelles, notamment un nouveau cadre juridique pour les mesures aux frontières extérieures en cas de crise sanitaire et des mesures alternatives au contrôle aux frontières. De plus, le Parlement européen et la Commission souhaitent réduire la marge de manœuvre des États membres quant à la réintroduction de contrôles frontaliers, explique l'eurodéputée Sylvie Guillaume, rapporteuse de l'Assemblée sur ce dossier.
D'abord, on rétablit une durée maximum, c'est-à-dire que on nous a opposé au cours de la discussion le fait que finalement il fallait prévoir qu'il n'y ait pas de limite au contrôle aux frontières intérieures et que ce serait finalement exclusivement aux États membres de décider de cela. Ceci contrevient au droit européen et la Cour de justice de l'Union, en avril de l'année dernière, a jugé effectivement très concrètement et très clairement que les contrôles ne pouvaient pas être tout le temps reproduits dans le temps. Donc nous fixons des dates.
Le Conseil européen, qui est constitué de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, a adopté son approche générale sur cette réforme en juin 2022, tandis que la plénière du Parlement européen a donné le 20 septembre dernier sa bénédiction finale au rapport rédigé par la même eurodéputée Sylvie Guillaume afin d'ouvrir le dialogue interinstitutionnel et de convenir d'un texte final dès le début du mois de novembre. Cependant, la date et les modalités de cette réforme sont encore incertaines, le Parlement européen et les États membres ayant des positions très divergentes sur le sujet.
L'une des pommes de discorde est l'instrumentalisation des migrants, définie dans les textes comme une situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique encourage ou facilite les mouvements des ressortissants des pays tiers vers les frontières extérieures de l'UE ou vers un État membre dans le but de les déstabiliser. Une situation vécue à la frontière avec la Biélorussie. La disposition a été retirée du texte du Parlement en raison de son intérêt limité pour les règles régissant le bon fonctionnement de l'espace Schengen, selon l'eurodéputée Sylvie Guillaume.
Nous demandons qu'un certain nombre que les pays, quand ils n'utilisent pas le système de contrôle aux frontières intérieures soit autorisé à avoir des systèmes différents, donc de patrouilles conjointes pour les migrants irréguliers, mais nous avons très sévèrement encadré cette démarche pour que les patrouilles conjointes en question ne se livrent pas à une chasse à toutes ces personnes qui traversent les frontières. Donc, on a fixé des limites très claires.
Une fois de plus, les dossiers Schengen souffrent des lacunes du pacte sur les migrations à raison de leur profonde interconnexion. Les institutions européennes ont pour objectif de finaliser ces derniers d'ici la fin de l'année. Ainsi, pour l'avenir de l'espace Schengen, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je vous proposerai une suite à cet épisode dans une quinzaine de jours où j'examinerai la situation en Bulgarie et en Roumanie, deux États membres de l'UE dont la candidature à l'adhésion à la zone de libre circulation est attendue depuis longtemps. Restez à l'écoute!